Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue le parcours de prédication qu'on avait entamé la semaine dernière. Un parcours d'étude du début du récit biblique, le début du livre de la Genèse. Un parcours que nous avons donc intitulé Il était une fois. La semaine dernière, on avait étudié Genèse 1, le récit de la création. Ce qui en est ressorti, c'est que Dieu, unique mais trinitaire, a créé toute chose par lui-même. Il a fait une création bonne, belle, harmonieuse, qu'il est bon de contempler, d'étudier, de comprendre. Et parmi toute sa merveilleuse création, il nous a choisis. Il a choisi les humains, afin que nous soyons ses représentants, en relation avec lui, en communication avec lui. Tous égaux devant notre Dieu, tous unis dans notre responsabilité, même si tous différents dans notre individualité. Il était une fois un monde beau et harmonieux, des humains égaux entre eux, unis dans leur mission de prendre soin de la création, des humains en lien avec leur Dieu. C'est sur cette belle conclusion qu'on s'était arrêté et nous continuons aujourd'hui notre parcours. Après Genèse 1 vient Genèse 2. Dans ce chapitre, comme en Genèse 1, toujours de manière poétique et imagée, la Bible nous raconte à nouveau la création de l'homme et de la femme. On voit également en Genèse 2 le début de la mission que Dieu donne aux humains. En effet, Dieu a placé les humains sur terre comme ses gouverneurs, ses représentants, qui doivent dominer sur la création, mais en prenant soin. Ce n'est pas une domination négative, c'est une domination positive, prendre soin de la création de Dieu. Et effectivement, en Genèse 2, les humains donnent un nom à chaque créature vivante, comme des gouverneurs qui feraient le recensement du peuple qui leur est confié. Genèse 2 nous décrit également le début de la relation entre l'homme et la femme. Ils sont dits côte à côte, égaux, différents mais complémentaires, toujours sans domination de l'un sur l'autre. Enfin, Genèse 2 nous décrit le début de la relation entre les humains et Dieu. En effet, dans ce chapitre, Dieu place les humains dans ce monde beau, bon, harmonieux qu'il vient de créer, et dans ce monde, il leur donne une liberté immense. Ils peuvent jouir de tout ce que contient cette création, sauf d'une chose, le fruit d'un arbre. Et je vous lis ce passage. En Genèse 2, les versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu leur dit qu'ils ne doivent pas en manger, sinon ils vont mourir. Dieu ne restreint pas leur liberté, il avertit juste les humains d'un danger pas forcément évident au premier regard. C'est comme si nous, on trouvait un fruit très beau, il a l'air bon, hein, mais un botaniste intervenait tout à coup pour nous dire, le mange pas, il est toxique. C'est pas une restriction à notre liberté. C'est un acte d'amour. On nous avertit pour notre bien. En gros, Dieu sait mieux que l'homme ce qui est bon pour lui, alors il le leur indique parce qu'il désire leur bonheur et leur bien-être. Et c'est ici que nous arrivons au chapitre 3 de la Genèse que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Et je vous invite à suivre la lecture de ce passage. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, vraiment? Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher. Sinon, nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes, en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Mais où es-tu ? » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi, qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?»« C'est le serpent qui m'a trompé, » répondit la femme, « et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre. Et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Car tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. » L'homme nomma sa femme Ève, vie, parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Tout d'abord, comme pour notre étude de Genèse 1, il nous faut savoir quel genre littéraire est celui de ce texte. Parce qu'on n'étudie pas de la même manière un récit historique ou un poème. Et ici, on est plutôt embêté parce que dans ce texte, c'est bourré d'images et de symboles qui font penser à un poème, et pourtant il raconte une histoire qui va déterminer l'avenir de l'humanité tout entière. Alors c'est quoi? Un récit historique ou un poème? Eh bien, c'est en fait un peu des deux. Ce texte n'est pas un récit historique qui va nous décrire une succession d'événements. Genèse 1 ne l'était pas, Genèse 2 non plus. Eh bien là, c'est pareil. En revanche, dans ce texte, tout comme en Genèse 1, l'auteur veut utiliser des symboles pour nous donner le sens réel d'événements qui se sont effectivement passés. Le théologien Henri Blocher conclut sur le genre de ce texte en disant « Ce n'est pas un récit historique de la chute, mais c'est le récit imagé d'une chute historique. » La chute, la rébellion des humains contre Dieu, ça a eu lieu. Mais ce texte ne nous raconte pas comment ça s'est passé. Il nous raconte le sens de ce qui s'est passé, avec des images. Alors si effectivement ce texte est rempli d'images, de symboles, quels sont ces symboles et quel est leur sens? Eh bien, une image centrale de Genèse 2 et 3, c'est l'image des deux arbres. Et je vous lis juste le verset 9 de Genèse 2. L'Éternel fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Pour savoir ce que ces arbres représentent, il faut regarder leurs fruits. Un des arbres a pour fruit la vie. Mais depuis le début de la Genèse et dans tout le reste de la Bible, qu'est-ce qui donne la vie? Qu'est-ce qui produit la vie? Quelle est la seule source de la vie? C'est Dieu. C'est pas un arbre. C'est Dieu qui est la source de la vie. Dieu nous donne la vie. Si jamais on en vient à se couper de Dieu, on se coupe donc de cette vie pour aller vers la mort. Mais si nous restons près de Dieu, en relation avec lui, dans la dépendance de ce que lui seul peut nous donner, alors le fruit de cette relation, c'est la vie en abondance. Le fruit de la relation à Dieu, c'est la vie en abondance jusque dans l'éternité. C'est ce qui est écrit sur le mur de notre église avec ce verset qui est écrit en gros, Jean 3,16. Dieu a donné son Fils pour que les hommes soient pardonnés, pour que les hommes puissent à nouveau être en relation avec Dieu et qu'ainsi ils aient la vie éternelle. Aucun fruit végétal ne peut donner la vie, mais dans la Bible, c'est la relation à Dieu qui donne la vie en abondance. Dans notre texte, avoir accès aux fruits de l'arbre de la vie, c'est avoir accès à Dieu dans une relation intime et parfaite par laquelle nous avons la vie en abondance. Et l'autre arbre alors? L'arbre du choix entre le bien et le mal. Eh bien, son nom parle de lui-même. Si choisir l'arbre de la vie, c'était choisir la relation à Dieu, la dépendance vis-à-vis de Dieu dans notre vie, eh bien choisir l'arbre du choix entre le bien et le mal, c'est rejeter cette dépendance, c'est vouloir être seul maître de notre vie, vouloir définir chacun individuellement ce qui est bon pour nous, et c'est finalement se tromper. Pourquoi je dis que c'est se tromper? Tout simplement parce que notre texte nous le montre. Dieu sait ce qui est bon pour les humains et il sait aussi ce qui ne l'est pas. Alors, il les met en garde. Attention, vous avez accès à la vie auprès de moi, mais si vous choisissez un autre chemin, vous perdrez cette vie. Dieu sait ce qui est bien ou mal pour nous. Mais lorsque les humains veulent choisir eux-mêmes ce qui est bien ou mal pour eux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font comme dans ce texte. Il se trompe. Et je vous relis le verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Dieu avait averti que ce fruit n'était pas bon, mais les humains, eux, le voyaient comme bon à manger, agréable aux yeux et précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors ils ont décidé de se passer, tout simplement, de la vie de Dieu pour eux. Les humains ont rejeté la dépendance vis-à-vis de Dieu pour choisir ce qu'ils pensaient être l'indépendance. Mais ils se sont trompés, et Dieu avait raison. Les humains pensaient que leurs yeux s'ouvriraient et qu'ils seraient comme Dieu dans leur connaissance, mais lorsque leurs yeux se sont effectivement ouverts dans le texte, la seule chose qu'ils ont su, c'est qu'ils étaient nus. Grosse, grosse, grosse déception. Mais pire que cette déception, par ce choix, tout comme Dieu l'avait dit, ils ont perdu l'accès à l'arbre de la vie, à la relation à Dieu qui nous donne la vie jusque dans l'éternité. Ils ont été chassés loin de l'arbre de la vie, loin de la relation à Dieu, et ils sont allés vers la mort. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'arbre de la vie, l'arbre du choix entre le bien et le mal, c'est en fait deux chemins parmi lesquels nous pouvons choisir. On peut croire dans notre orgueil que sans Dieu, on est capable de faire les bons choix pour nous, les choix qui nous donneront la vie en abondance. On peut croire que ce sont nos actes et nos choix qui pourront nous donner la vie jusque dans l'éternité. Ou bien nous pouvons humblement reconnaître que tout ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. On peut se remettre à lui, rechercher une relation avec lui et recevoir comme cadeau gratuit et immérité cette vie en abondance qu'il veut nous donner jusque dans l'éternité. Ces deux arbres, ce sont des images qui expriment cet appel que Dieu lance à l'humanité, cet appel qui nous est rappelé en Deutéronome 30, verset 19, lorsque Dieu nous dit: Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. On va aussi étudier rapidement une autre image, un autre symbole dont parle ce texte, un symbole qui fascine ou qui fait peur, parfois les deux, celui du serpent. Alors dans ce texte, le serpent, c'est une image, un symbole, comme sur cette très célèbre représentation issue de l'imagination de Michel-Ange, hein, qui représente une personne qui existe, mais avec une sorte de forme de serpent, pour reprendre cette image. Dans le Proche-Orient ancien, comme parfois toujours un peu de nos jours, hein, le serpent était une image pour évoquer la séduction des puissances occultes, les pratiques rituelles magiques et mystérieuses. Et dans la Bible, on retrouve en plus le serpent comme ennemi de Dieu. C'est pas l'animal en lui-même qui est l'ennemi de Dieu, mais il le représente. Et cette personne, représentée ici par un serpent, la Bible l'appelle parfois l'accusateur ou le prince du mensonge ou le prince de ce monde pour montrer toute l'influence qu'il a sur les humains. C'est un être, une créature qui appartient au monde spirituel et qui dirige en quelque sorte la révolte contre Dieu. Il est donc parfois appelé le serpent ancien ou le dragon ancien, parce qu'en tant qu'ennemi de Dieu, les auteurs bibliques l'ont rattaché symboliquement au serpent. Cette personne, on la connaît plus souvent sous le nom de Satan. Et Satan, à la base, c'est pas un prénom. C'est même pas un nom propre, c'est un nom commun qui veut dire accusateur. Et la Bible appelle cette personne Satan, accusateur, parce que justement il vient devant Dieu accuser les humains de tout le mal qu'ils font, un peu comme un procureur devant un tribunal humain. Et vous savez que parfois dans la Bible, un nom commun peut devenir un nom propre, comme par exemple Dieu, on l'appelle souvent Seigneur ou éternel, pas parce que c'est son nom, mais parce qu'il est Seigneur et qu'il est éternel. Et bien là, c'est pareil, cette personne, on ne sait pas s'il a un nom, mais comme devant Dieu, il est notre accusateur, eh bien la Bible l'appelle l'accusateur, c'est-à-dire le Satan ou Satan tout court. Et cet accusateur, ici, il vient voir les humains pour les pousser à la révolte contre Dieu. Et il commence par faire passer Dieu pour une sorte de père fouettard. Il dit à la femme: Vraiment? Dieu vous a dit ne manger du fruit d'aucun des arbres du jardin? Alors il sait que c'est pas vrai. Dieu leur a justement donné une liberté immense de pouvoir profiter de toute la création. Dieu a juste mis en garde les humains contre ce qui est mauvais pour eux. Mais l'accusateur ici détourne la vérité, il joue avec la vérité. C'est pas pour rien que la Bible l'appelle aussi parfois le prince du mensonge. Il fait tout ça pour amener la femme à douter de la réelle bonté de Dieu. Il cache toute la générosité de Dieu, toute la liberté que Dieu donne aux humains, et il ne met en avant que le tout petit peu que Dieu déconseille aux hommes. Et en plus, ce tout petit peu, il en fait une montagne. Et bien sûr, les humains tombent dans le panneau. Ils ne voient plus la générosité de Dieu. La preuve se trouve dans la réponse que la femme fait au serpent. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors elle ne dit pas « Dieu nous a donné de pouvoir manger de tous les fruits ». Non, elle dit juste « Nous mangeons ». Comme si c'était normal. Comme si c'était pas un cadeau superbe. Une liberté immense que Dieu donne. Non, devant la remarque du serpent, elle prend l'immense générosité de Dieu pour un acquis. Et elle exagère le tout petit bout contre lequel Dieu met en garde les humains. Je dis qu'elle exagère parce que Dieu a juste dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais elle dit « Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Dieu n'a pas parlé d'y toucher. Il a juste mis en garde contre ce qui est mauvais pour l'être humain. Mais face à la manipulation de l'accusateur, les humains en viennent à minimiser l'immense générosité de Dieu qui devient banale, normale, acquise, et ils exagèrent les mises en garde que Dieu nous donne pour notre propre bien. Et ça suffit. Ça suffit à casser la confiance totale des humains envers leur Dieu. Les humains ne sont alors plus satisfaits de dépendre totalement de Dieu. L'accès à cet arbre de la vie ne leur suffit plus. Non, ils veulent pouvoir décider eux-mêmes de ce qui sera bien ou mal pour eux. Les hommes veulent se libérer de ce qu'ils prennent pour des contraintes, des limitations de leur liberté. Alors que ce ne sont que des mises en garde d'un Dieu bienveillant qui ne souhaite que le bien pour nous. Et dans notre texte, les humains choisissent. Ils choisissent de rejeter Dieu et de prendre leur vie en main. Ils pensent qu'ils vont se libérer, alors qu'ils ne vont en réalité que se couper de Dieu, se couper de sa présence, se couper de ses dons, se couper de sa vie. Et ce choix a des conséquences, parfois symboliques, dont nous parle notre texte. Tout d'abord pour le serpent, pour l'accusateur, pour le Satan, parce que Dieu le maudit. Dieu ne maudira pas les humains, donc même s'ils sont super mal barrés, ça leur laisse encore un espoir. Mais pas pour l'accusateur. Lui, il est définitivement maudit, coupé de Dieu, perdu, condamné, sans possibilité aucune de revenir dessus. Et Dieu l'annonce, l'accusateur sera détruit. Il sera détruit par la descendance de la femme qui mettra fin à son pouvoir d'accusation. Et c'est ce qui se passera en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on trouvera la réalisation de cette lueur d'espoir pour les humains. En Jésus-Christ, fils de Dieu, né d'une femme, les humains qui l'accepteront seront réconciliés avec Dieu. Ils seront pardonnés, rachetés de leur rébellion. L'accusateur sera détruit parce qu'il n'aura plus aucun pouvoir d'accusation contre ceux que le Christ aura sauvés. Il ne pourra plus les accuser parce qu'ils seront pardonnés. Pour les humains, il y a différents niveaux de conséquences. Tout d'abord, dans la relation entre homme et femme, les choix qu'ils ont faits leur ont fait prendre conscience de leur différence. Et cette différence, qui était simplement vécue dans la complémentarité, dorénavant, ils en sont gênés. Et cette différence entre homme et femme va depuis marquer profondément leur relation. Dieu les a créés égaux. Différents, oui, mais complémentaires. Mais maintenant, les humains ne voient plus que leur différence. Notre texte nous dit que la femme aspire à cette complémentarité perdue quand l'homme, lui, choisit de faire de sa différence une supériorité, une domination. Ce n'est pas une chose que Dieu souhaite, c'est la conséquence des choix des humains. Il y a des conséquences également dans le rapport aux bienfaits que Dieu leur donnait. Oh, Dieu ne leur retire pas tous ses bienfaits, la vie continue à la garder, du moins temporairement, parce que maintenant ils vont se diriger vers la mort, la terre est là, toujours, tout ce que nous possédons est toujours là. Ce sont des dons de Dieu. Dieu ne retire pas tous ses bienfaits aux humains, mais les humains en perdent une partie. Dorénavant, les naissances seront douloureuses, là où Dieu préserver les femmes de cette douleur. Dorénavant, la mission de l'homme de dominer et de bien gérer la création, d'en prendre soin, ne sera plus aussi simple. Parce que tout comme l'homme s'est rebellé contre Dieu, la création de Dieu s'opposera aux humains. La création ne sera plus aussi bienveillante envers les humains que ce que Dieu le désirait dans son projet initial. La création continuera à nourrir les hommes, hein. Dieu ne retire pas ses bienfaits. Mais plus rien ne sera aussi simple. Et enfin, il y a bien entendu des conséquences dans la relation entre Dieu et les humains. Cette relation est brisée. Parce que les humains ont rejeté leur Dieu. Ils ne veulent plus rester dans la présence de Dieu, comme le Créateur le désirait au départ. Ils voulaient vivre leur vie, et bien qu'ils la vivent, mais seuls, loin de Dieu. Loin de sa vie, loin de sa paix, de ses dons, de son amour. Il était une fois, c'est le nom de notre série de prédications. Il était une fois une création bonne et belle, une humanité en relation parfaite avec son Créateur, puis les humains, attirés par des mensonges, ont tout fichu par terre. Il était une fois un monde qui devient dur. Des humains devenus mauvais, le tout coupé de cette relation nécessaire à Dieu. Le tableau final est bien plus sombre que la semaine dernière, mais nous avons parlé d'une lueur d'espoir. Parce que même dans cet instant où tout paraît brisé, même lorsque l'humanité méritait juste une claque et rien d'autre, Dieu maintient son amour et sa fidélité. Et il annonce qu'il a un plan pour arranger les choses. Mais ce chemin est encore long, et les humains doivent désormais vivre avec les conséquences de leur choix. Mais ceci sera pour la prochaine fois. Amen.